Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 du British Fiction Podcast avec Marie et Jonathan. On a trouvé un titre depuis le précédent épisode.
Oui, on a trouvé un titre.
C'est plutôt bien.
Sobre et simple.
Bah,
et
on a fait au plus simple, oui, ouais, c'est voilà. Aujourd'hui, un épisode consacré à une série britannique qui, contrairement à ce qu'on disait dans le précédent épisode, cette fois-ci n'est pas rare à trouver et n'est pas difficile à regarder.
Oui.
Puisqu'on va parler de Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre, série des années 70, début 70, en fait 1971 exactement. Série diffusée sur le réseau ITV, produit par ITC, qui a produit énormément de séries à succès de cette époque-là qui sont restées dans les annales, comme Le Prisonnier, Thunderbirds, oui. Captain Scarlet.
Bah, toutes les séries de Jerry Anderson, en
toutes
fait.
Les séries, quasiment toutes les séries
oui,
de Jerry Anderson.
Oui, presque toutes, oui. En tout cas, toutes de cette époque-là.
Mais il y avait d'autres séries d'espionnage, comme Département S, Les Champions, il y en a Le Baron. D'ailleurs, Amicalement Vôtre faisait partie de 4 séries.
Une série de 4.
Ou une série de 4 ?
Oui, une série de 4
séries.
Ah
oui, une série, parce que j'ai dit 4 séries.
Oui.
En fait, à ce moment-là, ITC s'est lancé dans la production de 4 séries pour le marché américain, grosso modo. C'est-à-dire Amicalement Vôtre,
oui,
qui était la série phare.
Avec le plus de budget.
Le Baron.
Le Baron qui était mauvais.
Non, mais oh, je lui donnerais bien une chance, mais je n'ai jamais vu l'épisode du Baron. L'Aventurier qui, lui, a vraiment la réputation d'être mauvais.
Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là. Et
le quatrième, c'est Poigne de fer et séduction de Jerry Anderson. Qui est plutôt pas mal, mais alors 30 minutes pour chaque épisode, c'est super
court. Oui, ça souffre vraiment de son format, oui.
Mais on va commencer par le début, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'Amicalement Vôtre, et à vrai dire, le but, c'est de vous faire découvrir si vous ne savez pas, parce que si vous savez, bien sûr, bah, y a beaucoup de choses qu'on dira que vous savez probablement ou pas.
Oui, parce qu'on peut avoir raté Amicalement Vôtre malgré toutes ces rediffusions. La preuve, c'est que moi, je l'ai raté pendant toute mon adolescence, mon enfance, alors que ça a été rediffusé 150 000 fois. C'est comme Chapeau Melon et Bottes de Cuir, je les ai systématiquement ratés aussi.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de honte à ne jamais l'avoir vu spécialement, mais c'est l'occasion de découvrir.
Bah d'ailleurs, tu vas nous raconter de quoi ça parle, cette série.
Oui. Alors, il s'agit de deux personnages, Lord Brett Sinclair, interprété par Roger Moore, qui est un noble anglais, et Danny Wilde, joué par Tony Curtis, qui est lui un homme d'affaires américain. Ils sont tous les deux très riches, ont tous les deux de très belles voitures, et ont tous les deux énormément de succès avec les femmes. Ils vont se retrouver par hasard mêlés à une enquête plutôt lancé par le juge Fulton, qui est un personnage qui revient souvent dans la série, lorsqu'ils sont en vacances sur la Côte d'Azur. Et par la force des choses, ils vont devoir travailler ensemble. Mais ils n'ont pas du tout le même caractère, en plus ils sont de nationalité différente et ont une certaine rivalité, en tout cas au début. Mmh. Au fur et à mesure, il y a une amitié qui se crée et ils deviennent comme deux larrons en foire. Il y a deux périodes à la série majoritairement, je pense que Jonathan va l'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a la période Côte d'Azur,
où, la période française,
la période française voilà, où Lord Brett Sinclair et Danny Wilde se trouvent plus ou moins en villégiature à la Côte d'Azur et même un petit peu plus loin
en Espagne aussi.
En Espagne aussi, à un moment donné, ils passent vers les Cinque Terre, en Italie.
En Italie, oui.
Oui, oui, ils font un peu le tour là, du pourtour méditerranéen de ce côté-là. Et ils ont des enquêtes. Et la deuxième partie se passe à Londres, plus dans l'appartement de Lord Brett Sinclair et aux alentours, avec Danny Wilde qui vient rendre visite à son ami. Ils vont même, à un moment donné, même en Écosse, je pense. Et même un peu partout en Angleterre.
Voilà.
Et c'est vraiment deux périodes assez distinctes. Même l'esthétique n'est pas spécialement la même, parce que déjà, le temps fait qu'il y a un peu moins de... Toute la garde-robe est assez différente. Mais ça reste des enquêtes aussi, très sympathiques. Je ne saurais pas dire quelle est la partie que je préfère, personnellement.
On en reviendra un peu plus tard. Hein. Mais c'est vrai que moi aussi c'est pareil, mis à part un épisode que je classe en dernier dans ma liste, tous les autres sont en numéro 1. Donc il n'y a qu'un numéro 2.
Voilà, il n'y a qu'un seul
Mais il y a
numéro
23 numéros.
C'est ça. Ça va bien résumer.
Moi, c'est parfait. Donc, effectivement, série policière de. Finalement, de. En anglais, on dirait vigilante, d'une certaine manière, mais de justicier un peu indépendant.
C'est pas la police, quoi.
C'est pas la police, ouais, qui résolve. Qui résout. Ah, je sais pas le dire.
Les policiers qui résolvent, si tu
Des,
veux.
voilà, qui viennent à la rescousse, disons. Et donc le juge Fulton, qui est un personnage, un ancien juge à la retraite, qui veut régler certaines affaires qu'il ne pouvait pas faire de manière classique par la police.
De manière officielle.
Voilà, donc en fait, c'est une série de 24 épisodes seulement, qui a été imaginée et produite, enfin créée par Robert S. Baker, qui avait notamment travaillé sur la série Le Saint avec Roger Moore. D'ailleurs, il a imaginé le concept de la série pendant la production du Saint et a testé l'idée dans un épisode qui s'appelle Le Roi. Je ne sais plus de quelle saison, je crois que c'est saison 4 de mémoire, période couleur. Et il a fait un épisode avec où Simon Templar,
Joué aussi par Roger
par Roger
Moore.
Moore, oui, se retrouvait en fait accompagné d'un Américain magma du pétrole joué par un acteur qui est pas très connu, enfin en tout cas plus très connu de notre génération, je dirais, parce que bah c'est toute une génération d'acteurs américains qu'on ne voit plus en fait, parce que soit ils sont décédés, soit c'est des productions assez anciennes.
Oui, ils n'ont pas joué dans des films qui restent dans la mémoire en tant que grands films du cinéma. C'est peut-être ça aussi. Enfin, en tout cas, que c'est pas, il n'a pas forcément joué dans des grands classiques.
Ça, à vous dire, je connais pas trop. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas des acteurs que je regardais parce que Cary Grant, tout ça. Enfin, c'est des acteurs qui d'ailleurs avaient été à qui on avait peut-être proposé le rôle de Danny White pour la série. C'est toute une catégorie de films en fait qui était fortement diffusée en France durant les années 70-80, mais à partir des années 90, en fait, c'est plus vraiment le genre de film qu'on diffusait.
Et du coup, c'était qui?
J'arrive pas à retrouver le nom en fait.
C'est pour ça que tu noies le poisson.
C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que je noyais un peu le poisson. Ça s'entendait Non, il s'appelle Stuart Damon. Voilà. Stuart Damon. Et honnêtement, en ayant vu l'épisode, effectivement, c'est vraiment le pilote. On pourrait considérer comme étant le pilote d'Amicalement Vôtre, puisque effectivement. C'est un Anglais qui se retrouve à travailler avec un Américain pour résoudre une affaire de vol. Et en fait, il est très similaire sur son ton au premier épisode d'Amicalement Vôtre. Alors, je sais que toi, tu ne l'as pas vu, donc ça te dira
Non,
rien.
mais c'est pas du tout mon préféré. Pour moi, c'est disons que ça serait le numéro 2 face aux 23 autres.
Ouais.
Non, peut-être le numéro 2 face aux 22 autres, parce qu'effectivement, on a le même.
On a à peu près le même avis sur le deuxième,
Sur
enfin sur l'épisode un peu moins.
moi, c'est moi le numéro
Enfin,
3,
c'est pas
moi.
qu'il est moins bien, mais enfin,
Il est bizarre.
on en parlera.
Ouais.
Mais en fait, le premier épisode d'Amicalement Vôtre nous montre donc vraiment le conflit entre l'Américain et l'Anglais, quasiment pendant une bonne partie de l'épisode. Et
Oui.
c'est que vers le milieu où le juge Fulton se fait enlever en finale, qu'il décide vraiment de s'associer pour essayer de sauver le juge Fulton. Et résultat, cette dualité en fait est très présente dans le premier épisode et à peu près dès le troisième ou quatrième épisode de la série va vraiment quasiment disparaître pour
Ouais.
juste
Heureusement d'ailleurs,
oui,
parce que
heureusement
c'est pas
pour
quelque chose qui était si intéressant que ça.
pas tellement et ça va se transformer plutôt en boutade entre les deux.
Oui, des taquineries,
Voilà,
quoi.
plutôt que vraiment un conflit parce qu'en fait la particularité, enfin ce que Robert S. Baker voulait mettre en avant, c'était justement cette espèce de rivalité qu'ont les Anglais avec les Américains, alors au niveau de leur façon de penser, pas forcément des taquineries, et ça se voit effectivement beaucoup plus dans l'épisode du Saint, puisque d'ailleurs ils se battent dans l'épisode quand ils se rencontrent la première fois, ils se battent dans un restaurant, comme dans l'épisode d'Amica,
Oui,
enfin, dans le
effectivement,
premier épisode.
ils en viennent aux mains aussi dans
Voilà,
cet
et il se
épisode-là.
passe en fait à peu près la même chose. Sauf que, honnêtement, si Stuart Damon avait été choisi pour jouer Danny Wilde, la série aurait nettement moins bien marché. Parce que c'était typiquement l'acteur américain, belle gueule, visage très carré,
Ouais, la James Dean presque.
voilà, presque le héros enfin, le cow-boy, quoi, en
Ouais.
fait. Alors que Danny Wilde, enfin Tony Curtis, c'est pas le même type de personnage.
Il est plus pertinent en tant que petit gars qui s'est fait tout seul.
Oui, c'est ça.
Ouais. Même il est séduisant, mais il n'a pas, cette beauté...
Il n'a pas leur visage carré.
Voilà, il n'a pas cette beauté désincarnée que peut avoir Roger Moore, quoi.
Et donc, la série, enfin, le concept a plu à Lou Grade, hein, qui donc dirigeait ITC, et qui en a fait son fer de lance pour vendre la série aux États-Unis, puisque Lou Grade, qui a produit énormément de séries populaires de cette époque-là, c'est lui qui est quand même derrière les Sentinelles de l'air. C'était... Même si c'est une production de Jerry Anderson, mais c'est lui qui a donné le pognon, quoi.
Mais il avait une obsession, c'était d'essayer de vendre ses séries aux États-Unis. Ouais, il avait essayé vraiment massivement avec notamment la production de Jerry Anderson.
Et ce qui est assez triste, c'est qu'il n'a jamais vraiment réussi.
Non.
Pendant toute sa carrière, autant, toutes les séries en fait, ont rarement dépassé une saison.
Oui.
Point de Fer et Séduction, d'ailleurs, étant une des rares exceptions, puisqu'il y a quand même deux saisons de 32 épisodes, mm-hmm. de mémoire. C'est d'ailleurs la série la plus longue de Jerry Anderson.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il a mis le paquet, en fait, dans cette série, à tel point que la série était filmée en 35 mm. Les épisodes faisaient 45 à 50 minutes. Tournage d'une bonne partie de la série en France, sur la Côte d'Azur, en décor réel pour une bonne partie.
Mm-hmm.
Mais en studio aussi pour les décors intérieurs, mais beaucoup en extérieur.
Mm-hmm.
D'ailleurs, dans le premier épisode, il y a une course entre les deux personnages qui se fait sur une route très connue de Monte Carlo.
Oui, c'est ça.
Où ils avaient bien sûr arrêté la circulation pour ça. La chanson d'ailleurs qui est dans cette séquence a été composée spécialement pour l'épisode. Hein, c'est pas...
Ah, je m'en souviens plus de cette chanson.
Je sais pas s'il y a eu de vinyle de ça, j'aimerais bien l'avoir un jour en vinyle. Musique de John Barry pour le générique. Pour
ah
le générique.
Oui, ce générique est vraiment super.
Qui est reconnaissable, hein, d'ailleurs vous l'avez entendu dans l'épisode au départ. Très reconnaissable, et en fait il y a plein de bonnes choses dans cette série qui fait que ça
marche
bien, quoi, qu'on l'aime. Alors, revenir un peu... on va peut-être pas revenir sur la production parce qu'il y a énormément à dire et c'est... Enfin,
c'est pas toujours intéressant, peut-être les grandes lignes à la limite.
Les grandes lignes, oui, il y a deux parties dans cette série, puisqu'il y a la partie européenne. La partie anglaise, en fait, a été produite en Angleterre principalement pour réduire le budget.
Mm-hmm.
Parce que c'était plus facile, disons, de tourner à Londres.
Oui, et surtout qu'il y a assez peu, finalement, de décors qui diffèrent. Ils ont reconstruit en permanence, dans mes souvenirs, l'appartement de Lord Brett Sinclair,
oui.
il était construit pour chaque épisode. Et par contre, effectivement, il créait pour chaque épisode un ou deux maximum décors.
Oui, c'est typiquement des décors de série de cette époque.
Oui.
Hein, c'est des murs.
Voilà.
Hein. Mais c'est pas pour ça que le budget était réduit.
Non.
Il y a beaucoup de scénaristes connus qui ont écrit des épisodes...
Terry Nation.
Cette série, notamment Terry Nation, oui.
Qui est l'inventeur des Daleks, hein, quand même. C'était l'un des premiers scénaristes, pas le créateur de Doctor Who, comme beaucoup de gens disent souvent, mais c'est l'un des premiers scénaristes à avoir travaillé sur la série, et c'est lui qui a créé les Daleks.
Notamment. Brian Clemens, qui est connu pour son travail sur Chapeau Melon et Bottes de Cuir, et... Mm-hmm. Comment s'appelle déjà cette série? J'ai un doute, je crois que c'est... Parce qu'ils ont tellement... En fait... Il y a une blague, hein,
oui.
Comme nous on est grand fans de Doctor Who, et il y a une blague qui tourne souvent sur les séries anglaises, c'est que grosso modo les séries anglaises c'est trois acteurs, deux décors et quatre scénaristes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et j'avoue que c'est un peu vrai. Hein.
Avec des nombres peut-être un peu plus importants, mais quand on prend les productions des mêmes années, on finit toujours par tomber sur « Ah, machin, ben, il a travaillé sur Doctor Who. Ah, ben, machin, il a travaillé sur Amicalement Vôtre. Et ah, machin, il a travaillé sur une série de Jerry Anderson. Ben oui, ben... Ah, ben, c'est le compositeur de trucs. » Ouais, ben, oui, on tombe finalement assez souvent sur les mêmes gens qui bossaient dans les mêmes cercles.
Également des noms connus comme Val Guest aussi, qui... attendez que je me remémore un peu. Parce qu'il a réalisé aussi beaucoup plus, et c'est un nom qu'on voit souvent dans les productions anglaises. Enfin bref, il y en a énormément, et faire la liste, allez sur Wikipédia.
Voilà.
La série a été diffusé dans énormément de pays, a reçu un très fort accueil, notamment en Europe,
oui.
Notamment en Allemagne et en France.
Ben c'est très simple, si vous voulez lire des fanfictions amicalement vaudes, bon déjà, le nom anglais c'est The Persuaders, point d'exclamation, et on va dire que 70% des fics sont en allemand, 20% en italien, il y en a 2-3 en français, alors en anglais, mais il n'y en a quasiment pas. C'est dire à quel point ça n'a pas du tout marqué les Anglais. Mais vraiment pas.
Je pense que ça, c'est pas que ça n'a pas marqué les Anglais.
Mais ça donne une bonne idée du fandom, quoi.
Oui, oui,
c'est souvent, aller voir les fanfictions produites sur une série ou sur toute autre production de fiction, ça donne une bonne idée de comment le fandom se conduit et comment la série peut être perçue ou accueillie, ou même a posteriori, donc comment les gens s'en souviennent, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez marrant, et j'en ai déjà parlé avec des amis anglais, c'est qu'en tant que Français ou Belge, en fait, nous, on a un attachement pour Amicalement Vaud. Souvent, on se dit, ah oui, je me rappelle de cette série, quand on l'a vue, disons, lors des diffusions télé, quand on était jeune. Moi, j'ai grandi avec Amicalement Vaud, hein. Ça passait en boucle sur M6 à l'époque où j'étais jeune. Donc,
en Belgique, on n'avait pas M6, mais j'ai vaguement souvenir que sur la RTBF, il passait Chapeau Melon et Bottes de Cuir et Amicalement Vaud.
Ouais,
c'est juste que moi, je ne les regardais pas. Mais...
Elle a même une adaptation flamande. Hein, donc,
Oui, ouais, il y a un doublage néerlandophone, alors que les néerlandophones doublent rarement les fictions, en fait.
Je ne suis pas sûr que ce soit un doublage.
C'est pas un doublage, c'est peut-être un sous-titrage.
C'est sous-titré, mais en tout cas, il y a un titre de Spielvogel.
Oui, c'est plus proche. C'est les oiseaux. C'est
les Playboys, apparemment.
Oui, effectivement, mais Vogel, c'est les oiseaux, en fait. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'ils utilisent souvent des noms d'oiseaux pour les gens un peu séducteurs.
Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la réception de la série, en fait, en Angleterre est assez particulière, parce que quand on en parle en anglais, on parle souvent, ah ouais, j'aimais bien cette série, les Anglais vont dire, ouais, elle était bien, mais bon, sans plus, quoi.
Oui.
Et je pense que à chaque fois que les gens... Enfin, que souvent, on explique aux Anglais, c'est l'humour qu'il y avait entre les deux personnages. Et bizarrement, pour un Anglais, l'humour qu'il y avait entre Danny Wilde et Brett Sinclair, en anglais en tout cas, n'est pas si visuel que ça. Et pas si... Enfin, c'est assez... C'est effectivement ce côté...
C'est drôle, mais sans plus, quoi.
J'envoie des pics parce que je ne suis pas de la même culture, quoi.
Ouais.
Alors que la particularité de la version française, ce sont les doubleurs.
Oui, et même chose de la version allemande, en fait, parce que la version française doit beaucoup à la version allemande.
Oui, c'est ce que j'ai lu assez souvent. J'aimerais bien regarder... parce que j'aimerais bien regarder les épisodes en allemand pour vraiment me faire une idée là-dessus, mais vraisemblablement, l'adaptation française est basée sur l'adaptation allemande. Parce qu'il y a des gags qui sont repris et qui n'étaient pas, disons, présents de cette façon-là dans la version anglaise. Et donc, nous avons, au niveau du doublage, nous avons Michel Roux pour jouer Danny Wilde. Et nous avons le doubleur attitré de Roger Moore, habituel, bien sûr, Claude Bertrand. Claude Bertrand qui a arrêté de... Enfin, qui est décédé après le dernier James Bond, donc il a arrêté de doubler. Roger Moore après le dernier James Bond. Ça aurait fait bizarre, d'ailleurs.
Oui.
Par contre, le juge Fulton a plusieurs voix durant la série, puisqu'il est doublé par Émile Duard. Au départ, et ensuite par Jean-Marie Chambois, et il me semble que dans un épisode, il a une voix encore différente. Mais à vérifier, parce qu'en fait, le juge Fulton n'est pas si important dans la série.
Il apparaît
surtout au début de la série. Et après, au fur et à mesure des épisodes, c'est pas un personnage qui finit par disparaître, mais qui apparaît beaucoup moins souvent, ça c'est certain. Et donc la version française est vraiment particulière pour les voix, parce que Michel Roux a donné vraiment un timbre très particulier à Danny Wilde, il a su vraiment lui donner un... Enfin,
il est vraiment parfait.
Il est vraiment parfait.
Je pense que c'était lui dont on avait vu une fois une interview où Tony Curtis était sur le plateau,
oui.
Et Roux aussi.
C'était dans une émission de Michel Drucker.
Oui. Où il avait fait se rencontrer l'acteur et sa voix, et c'était assez, assez intéressant.
Oui, d'ailleurs, Danny Wilde, quand il l'avait rencontré, il lui avait demandé donc, s'il pouvait continuer à le doubler dans les futures productions. Malheureusement, c'est la période où il a fait le moins de films, apparemment. Et les rares films qu'il a fait, je crois que c'est pas toujours des gros budgets. Et je crois qu'il y a même des films qu'on n'a jamais eu en français de cette
C'est
période.
possible. Oui, parce que il est contrairement à Roger Moore, Tony Curtis était déjà presque un peu sur la fin de sa carrière hein, dans Amicalement Vôtre. Il avait été au cinéma.
En fait, il était. La particularité de Tony. Roger Moore, lui, il a commencé à la télé.
Et
Et
puis
il a
il est
fait du
passé au cinéma,
cinéma.
alors que Tony Curtis a fait l'inverse.
Non, en fait, il n'aimait pas la télé.
Non.
Pour un acteur américain, faire de la télé, c'était. En fait, c'était.
Descendre.
Ouais, c'était descendre. Donc lui, il voulait faire que du cinéma. Il a fait quelques séries télé, puisque après justement, Amicalement Vôtre, peu de temps après, il a fait une série qui s'appelle Vegas, je crois. Qui apparemment a été diffusée en France, puisque mon père se rappelle bien l'avoir vue et me dit toujours que ça ressemblait. Enfin, Michel Roux devait le doubler, donc ça devait ressembler à Amicalement Vôtre, mais aux États-Unis, sans Roger Moore. Mais il a fait quelques séries par la suite, et ensuite il a fait surtout des nanars en fait au cinéma. Parce qu'il a fait des films comme Le Manitou, qui est un film de science-fiction avec une femme qui se retrouve avec une espèce enfin, de boule qui grossit dans son cou, et en fait, c'est un esprit qui essaye de rentrer dans notre monde.
D'accord.
C'est très bizarre. C'est très
Ça me
bizarre.
rappelle un livre de science-fiction, mais sur le moment, je n'arrive pas à trouver le
C'est
titre.
peut-être adapté de ça, honnêtement.
Ouais. Mais sur le moment, je ne trouve plus de quoi il s'agit.
Alors, bien sûr, la série n'a duré que 24 épisodes. Deux raisons à ça. Le manque de succès aux États-Unis. Parce que la série, en
Oui.
fait, s'est vautrée aux États-Unis. Contrairement au reste de l'Europe où elle a vraiment eu un très très bon succès dans la plupart des pays européens, mais aux États-Unis elle s'est vautrée. Les Américains sont passés, ça leur passait au-dessus quoi. Le manque de succès aussi en Angleterre parce qu'elle n'a pas été vraiment accueillie si chaudement que ça, même si bon ça c'est pas pire qu'aux États-Unis.
Ben, c'était une série comme une autre pour eux.
Et à cause de ça, Lou Gray n'a pas commandé de saison 2. Il y a eu pendant un moment la possibilité d'avoir une saison 2. Mais Roger Moore, on lui a proposé de jouer James Bond.
Ouais, donc il était un peu coincé.
Ouais, et c'était la troisième fois qu'on lui proposait.
Ouais.
Donc il a préféré accepter de jouer James Bond plutôt que
Ce qui
de
peut se
continuer.
comprendre.
Et d'ailleurs, pendant un moment, il a été envisagé peut-être de continuer la série sans Roger Moore. Mais finalement, le projet est tombé à l'eau assez rapidement.
Oui,
Donc,
bah oui, c'était pas non plus très pertinent, je trouve. Parce que ce qu'il faisait finalement cette
Bah,
série,
c'est les
c'était les
deux.
deux personnages
C'était les deux.
ensemble qui fonctionnaient.
C'était les deux, et c'est vrai que ça aurait été bizarre. Mais après, ça aurait été intéressant pour autre chose, c'est que, par exemple, le personnage de Danny Wilde, c'est l'étranger dans la série. Parce qu'il se retrouve en Angleterre, il se
Ouais, on
retrouve
le
en
voit
France.
jamais chez lui.
On le voit jamais chez lui, hein. Donc, on sait même pas s'il a un appartement en Angleterre, par exemple, à Londres. On voit
Souvent,
jamais son
il dit
appartement.
qu'il est à l'hôtel
Oui, c'est
et
ça.
souvent il dort chez
Chez Brett.
Brett d'ailleurs.
Ouais. Donc ce qui fait qu'honnêtement, c'est dommage en fait de ce côté-là qu'on n'en voyait pas plus sur Danny Wilde.
C'est vrai, Dani, comment tout tourne souvent quand même autour
De Roger
de
Moore.
Roger Moore
Ouais.
et
Enfin de Brett Sinclair.
ouais.
Maintenant, on va parler peut-être un peu plus en détail des épisodes, puisqu'on parlera après de comment vous pouvez
Ouais.
l'avoir.
Ça va être quelque chose de très difficile pour moi, donc parce que à part, souvent je mélange un peu ce qui se passe dans chaque épisode. J'ai un souvenir global de la série, mais pas, enfin,
Tu l'as pas
comment?
vu
Toi,
assez
tu les connais
souvent.
par cœur. Toi, tu les
Oui,
connais
voilà.
par cœur, vraiment, tu vois. Tu peux me dire, je veux dire, je te dis une réplique, tu me dis exactement dans quel épisode c'est. Moi, non, vraiment pas du tout.
Moi aussi.
J'ai quelques souvenirs. Je sais définir dans quelle période c'est. Je me souviens de ceux que j'ai moins aimés, bah, il n'y en a que deux, remarque, mais je mélange à peu près tous les autres. Donc vas-y, fais-toi plaisir.
Sur 24 épisodes, on a dit donc qu'il y en avait un qui était le plus bas dans notre classement.
Ouais.
Et il se trouve que c'est le même épisode pour nous deux. C'est un épisode qui s'appelle Angie, qui est soit le quatrième, soit le deuxième épisode. Ça dépend dans quel ordre vous regardez les épisodes. Souvent, il est listé comme étant le quatrième d'ailleurs.
Et d'ailleurs, on vient de reprocher le fait qu'on ne voyait pas assez Danny Wilde et la vie de Danny Wilde. Et
Et c'est
c'est
un
le seul
épisode.
épisode où on voit un peu la vie de Danny Wilde.
Ouais.
Mais ça passe mal, c'est bizarre.
C'est pas que ça passe mal. En fait, en le revoyant. En fait, à l'époque, quand j'étais jeune, effectivement, je ne l'aimais pas. Enfin, quand j'étais petit. Parce que jeune, je suis encore jeune quand même. Quand j'étais petit, je ne l'aimais pas parce que c'est l'épisode le moins drôle. C'est vraiment l'épisode le plus sérieux. Puisque c'est Danny Wilde qui retrouve sur la Côte d'Azur un navire en France. Et cet ami d'enfance, en fait,
a eu la même
enfance que ils ont tous les deux grandi dans le même quartier du Bronx, en fait. Je crois que c'est, ouais, je crois qu'il a grandi dans le Bronx, Danny Wilde. Et si Danny Wilde, lui, a réussi à rebondir, à se faire sa propre entreprise, c'est un self-made man, donc il a réussi à remonter. Son ami, lui, il a mal tourné, effectivement, puisqu'il est devenu homme de main, tueur à gages, d'une certaine manière. Et justement, Danny Wilde, dans cet épisode-là, a du mal à l'accepter. Il voit un vieil ami, et tout le long de l'épisode, il est en conflit avec Brett Sinclair, justement, parce que Brett se méfie, en fait, de cet ami, parce qu'en ce moment, il y a une histoire de meurtre, en fait, à Monte Carlo, justement, et tout porte à croire que Angie, justement, son ami, est lié à cette affaire.
Oui.
Et c'est très bizarre. En fait, cet épisode-là est à la fois très bon, parce que...
Ah oui, il n'est pas mauvais du tout, c'est juste qu'il est totalement en rupture avec le reste du ton de la série.
Oui, c'est ça.
En épisode pris à part, je ne considère pas qu'il soit si mauvais que ça. En fait, il n'y a pas d'épisode mauvais en soi dans Amicalement. C'est juste qu'il est tellement différent du reste.
En fait, justement, parce que j'ai plusieurs fois vu la série dans l'ordre. Et en fait, l'ordre de diffusion de la série officielle n'est pas l'ordre de production. Et en fait, il y a même aussi un ordre considéré comme fait par des fans, puisque en fait, il y a surtout pour les épisodes France.
Un peu comme les nouvelles de Sherlock Holmes.
Voilà, on peut construire une certaine chronologie, surtout pour les premiers épisodes, parce que par exemple, cet épisode Angie fait beaucoup plus sens au niveau de la relation des personnages quand il est regardé juste après le premier épisode.
Ouais, parce qu'ils sont encore en méfiance.
Voilà, parce qu'ils sont encore en méfiance tous les deux, ils sont pas encore amis comme ils le seront après. Donc ce qui fait que ça paraît logique que Brett Sinclair se méfie de son ami et ait ce côté un peu froid par rapport à Danny que quand on le regarde beaucoup plus tard dans la série, parce qu'il arrive souvent en quatrième position, voire parfois un peu plus. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on regarde la construction du personnage, en deuxième épisode, ça fait sens. Mais ça, c'est un peu du chipotage de fans, je dirais.
Ouais.
Honnêtement, on en a regardé un d'ailleurs hier soir, c'était Formule à vendre. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait de cet épisode-là? Qu'est-ce qui t'a fait...
C'était pas mon préféré non plus, mais effectivement je l'aimais bien. Il y avait quelques bonnes répliques. Ce qui me plaît surtout, c'est la manière dont ils se parlent l'un à l'autre.
Oui.
Moi, c'est vraiment ce que je préfère dans cette série. Elle limite l'intrigue policière est souvent limite secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de les voir interagir, les voir aussi aller fonctionner chacun de leur côté, hein, parce qu'à un moment donné, dans cet épisode-là, Danny Wilde part un peu de son côté.
Oui.
Et de voir leurs différences... Et finalement, de voir à quel point ça finit par se rejoindre quand même. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. C'est ça que j'aime.
Ils ne fonctionnent pas de la même façon, mais ils arrivent quand même à travailler ensemble. Oui.
Voilà.
C'est ça, c'est vrai que Danny Wilde est plutôt l'homme d'homme d'action, alors que Brett Sinclair, c'est celui qui est un peu plus réfléchi.
Oui. Mais bon, quand il faut donner des points, il est là quand même. Quoi.
Donc, te demander un top 5.
J'aime bien celui avec les pièces d'or.
Ah oui,
mais c'est uniquement parce qu'il y a quelqu'un qui porte mon nom dedans.
C'est Devine, c'est vrai.
Merci de dire mon nom de famille au monde entier.
Bah, c'est pas grave.
Effectivement, l'héroïne et son père portent le même nom de famille que moi. Et je sais pas, ça m'a semblé marrant à ce moment-là.
C'était assez drôle, oui.
J'aime beaucoup... Attends, je peux avoir ta liste, là?
Oui.
J'aime beaucoup celui où ils sont dans la maison de campagne de Danny Wilde qu'il a décidé d'acheter.
Oui, même si c'est celui-là qu'on a vu souvent.
Oui, parce que tu me disais, oh viens, on va regarder celui-là demain, et j'étais en mode, c'est celui qu'on a déjà vu 4 fois.
Oui.
C'est bon, quoi.
Et je l'aime beaucoup.
Oui. Je n'aime pas tellement le premier épisode, en fait. Dans le sens où, effectivement... En fait, les épisodes où ils ne sont pas encore très complices, c'est moi, mon trip. C'est un ami d'enfance, en fait, le Angie.
Oui.
Je pensais que c'était Angie, en fait.
Les épisodes, en fait, en fonction des diffusions, ont parfois changé de nom. Donc...
Oui, en fait, les titres ne me disent rien du tout, tu vois, c'est ça le problème. J'aime bien celui où il y a beaucoup de neige.
Alors ça, c'est vague. Parce qu'il y a, l'héritage Ozrov.
Oui, c'est celui-là.
Ouais, c'est celui-là.
C'est celui-là avec la Russe. Oui. Celui-là, il est bien. Et on dira ce que ça raconte après. Et un que j'aime aussi, c'est celui où, au tout début, ils font du camping.
Ah oui, bah c'est un enchaînement de circonstances.
Un enchaînement de circonstances, c'est lequel?
Qui est d'ailleurs réalisé par Val Guest. Pas Peter Hunt, pardon. Pas Val Guest. Peter Hunt, qui est le réalisateur du James Bond, qui est maintenant considéré comme étant excellent, mais qui a été très critiqué à sa sortie, puisque c'était avec George Lazenby, et qui est donc au service secret de Sa Majesté. Et d'ailleurs, il y a une blague sur James Bond dans cet épisode-là.
Ok. Et donc, voilà, ça c'est mes préférés, je dirais. Mais honnêtement, à chaque fois que j'en vois un, ça devient mon préféré, à part si c'est un où ils ne s'entendent pas encore très bien, tu vois.
Oui, donc un ami d'enfance.
Voilà, c'est ça. Et le premier.
Si je devais faire un top 5, il y aurait bien sûr... c'est pareil, parce que j'allais dire chez nous, parce que c'est vrai que quand il est diffusé à la télé, justement, souvent, c'est son titre français. Juste pour voir sur les DVD, c'est Un petit coin tranquille, hein, qui s'appelle, normalement.
Celui où il achète une maison.
Oui, il achète sa maison. Oh. Ensuite, il y a... Regrets éternels, bien sûr, quand toute la famille de Brett Sinclair
se fait assassiner. L'enterrement, mon Dieu. Cette scène.
Il y a une rancune tenace que j'aime beaucoup, c'est quand Roger Moore... Brett Sinclair se lance dans la Formule 1.
Oui. Bah, en fait, c'est amusant, comme on dit toujours, Roger Moore, Brett Sinclair... Oui, parce qu'en fait... On ne sait pas détacher Lord Brett Sinclair de Roger Moore. Je veux dire, c'est même pas qui joue, tu vois, c'est lui.
Oui, c'est plus ou moins lui, oui, ça c'est sûr. Un enchaînement de circonstances, justement, est aussi excellemment bon. Mm-hmm. Avec un Danny Wilde qui est menotté à une valise mystérieuse.
Ah oui, c'est vrai qu'il est chouette, celui-là.
C'est dans celui-là. Et j'aime aussi beaucoup l'épisode un drôle d'oiseau qui se passe à Paris. Où il y a Patrick Troughton qui apparaît dedans.
C'est vrai.
Oui, il y a Patrick Troughton qui joue un ancien nazi qui cherche une statuette.
Oui, effectivement, effectivement. Il n'y en avait pas un qui se faisait à Brighton aussi, à un moment donné. Ils sont sur la jetée.
Alors, celui-là, j'ai toujours un peu un doute, donc je ne vais pas donner de net titre. Mais effectivement, on a été à Brighton et on a été sur cette jetée où Danny Wilde et Brett Sinclair se battent avec des flics.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Voilà. Que dire de plus sur cette série, honnêtement, à part dire du bien?
Voilà. On peut dire comment la voir actuellement,
oui.
En français. Donc déjà, oui, si vous voulez la voir, privilégiez quand même la version française. Vous pouvez regarder la version anglaise par curiosité aussi, hein, mais la version française a ce côté, a ce charme...
Qui fait qu'elle a,
qui
du, succès,
qu'elle
en
a
fait.
Du succès en France.
C'est
voilà.
Ça. En fait, c'est ça, hein. C'est vraiment la version française, c'est parce que... d'ailleurs, si vous écoutez la VO, vous verrez d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement de différence au niveau adaptation entre la version française et la version anglaise.
Il y a quelques blagues en rajoutées.
Oui, il y a des trucs, il y a un peu d'improvisation qui a été rajoutée, mais globalement, c'est la même chose. Il n'y a, a pas de changement, c'est super bien adapté d'ailleurs. Mais c'est vraiment le ton et la voix des acteurs qui rajoutent au personnage.
Oui.
C'est vraiment ça. Parce que la voix de Roger Moore est très bien, la voix de Tony Curtis est très bien.
Ouais, plus que très bien, même.
Mais les voix françaises, leur voix française, surtout de cette époque-là, c'est ce qui rajoute tout le côté...
C'est ce qui fait que c'est charmant.
Oui, voilà. Michel Roux, c'est lui qui a, par exemple, doublé l'inspecteur Clouseau dans toutes les Panthères Roses, et qui donne ce côté franchouillard, mais un peu... Enfin, il arrive à donner un petit côté maladroit à sa voix, en fait. C'est difficile à expliquer, mais...
Bonjour, monsieur.
Oui, il a des mimiques très particulières, et donc la voix française de Roger Moore aussi, lui, a réussi à transcrire cette espèce de...
Rondeur et classe.
Oui, voilà, directement dans la voix française, qui est présent en fait en anglais, tu sais, c'est ce côté un peu très distingué
Oui.
que les Anglais ont quand ils parlent, et qui est parfois très difficile à transcrire en français, sans paraître pétant.
Sans paraître pétant et sans paraître, sans faire un faux accent anglais, quoi.
Voilà, et donc Claude Bertrand a réussi à le faire en fait, et c'est pour ça que c'était la voix de Roger Moore. Il l'avait déjà d'ailleurs, je crois,
Le sein.
oui, dans Le Sein, ça c'est sûr, mais je crois dans... comment ça s'appelle? La première série de Roger Moore, c'est Ivanhoé. Et je
Ah
crois que
mon Dieu,
c'était
oui.
déjà Claude Bertrand qui... en fait, j'aimerais bien regarder Ivanhoé en français. Je crois que c'est pas possible à l'heure actuelle.
Je pense pas qu'il te coffrait, hein.
Non, je crois pas. Et j'aimerais bien l'avoir en français pour savoir, mais il me semble que c'était déjà Claude Bertrand qui doublait Roger Moore dans Ivanhoé.
Mais donc, pour voir actuellement amicalement vôtre, il existe des coffrets français. Actuellement, ce sont des coffrets DVD qui
Oui.
sont disponibles. Il y a existé des coffrets Blu-ray.
Il existe un coffret Blu-ray.
Il
C'est
en
une bonne
existe même
histoire
deux.
d'ailleurs. Oui, en fait, c'est une bonne histoire parce que c'était quand? C'était sûrement en 2016, je crois. J'ai regardé les copyrights sur le coffret. Non, 2013?
Oui, c'est beaucoup plus vieux que ça, hein,
C'est
parce que,
wow, c'est très vieux.
chérie, vous aviez déjà le Blu-ray la première fois que je suis venue en Bretagne.
Oui, c'est vrai.
Et je pense que vous veniez juste de l'acheter.
Oui, c'est il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'était cette année-là, je crois.
Donc, et je
Effectivement,
suis venue
c'est
en
2013.
2013, la
Donc en
première fois.
2013, TF1 Vidéo édite plusieurs séries en DVD, en Blu-ray, notamment Le Prisonnier et Amicalement Vôtre. Sauf qu'il y a un problème pour ce coffret-là. C'est qu'il y a eu une erreur de pressage au niveau d'un des disques, qui donc les épisodes n'étaient pas en HD. Et ils s'en sont aperçus quand même assez rapidement. Et donc ils ont réédité le coffret. Et pour d'ailleurs, si jamais un jour vous avez la chance de le voir en magasin, ce coffret Blu-ray, pour savoir si c'est la version donc corrigée avec le bon disque dedans ou si c'est la version avec une erreur, il y a une espèce de, à l'arrière, il y a une petite pastille bleue,
Une gommette.
une gommette bleue. Et donc celle avec la gommette bleue, c'est la version corrigée, donc avec le
Oui.
bon disque à l'intérieur.
Je pense que ton papa a
Oui, c'est
la
ça.
mauvaise
Parce que nous,
version.
on l'avait acheté quasiment le jour de sa sortie.
Oui.
Et je m'en étais pas aperçu parce que bah, il y a qu'en regardant les épisodes, et puis on n'a pas regardé les 24 épisodes d'un coup, quoi.
Non.
Et ça fait... En fait, tu as eu la chance de trouver le coffret il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, alors qu'il est supposé ne plus être
Ah, il est
vendu.
introuvable.
Il est introuvable. Et un jour, je sais pas, c'est toujours comme ça quand je vais seule à Bruxelles.
Au MediaMarkt à Bruxelles, oui.
Je vais au MediaMarkt à Bruxelles. Et je regarde aller comme ça les séries, tout ça, et je vois le coffret. Je me dis, bah, c'est le coffret DVD. Je regarde un peu plus près, c'était le coffret Blu-ray.
Ouais, et en plus
Et
c'est tombé
c'était
ça.
le bon.
Et c'est incroyable parce que effectivement, en fait, ils ont été. En fait, je crois que pour Amicalement Vôtre, il a été retiré à la vente à cause de cette erreur. Parce
Ouais. Mais
que
ils n'en avaient pas pressé beaucoup non
ils en
plus,
avaient. En
hein.
fait, ils en pressent jamais beaucoup.
C'est
Et
comme le
le
prisonnier, hein.
prisonnier aussi, le coffret Blu-ray est quasiment introuvable
Ben on le
maintenant.
cherche toujours, hein. Ta
Ouais, parce que
maman
j'aimerais bien l'avoir. Voilà,
l'a,
au moins il y a ça.
mais...
Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est parce que ils ont le Blu-ray, de toute façon, ne marche pas tellement en France. Ça se vend pas des masses. Les gens favorisent encore beaucoup le DVD parce que c'est moins cher.
Ouais.
Et à cause de ça, TF1 Vidéo n'a jamais vraiment lancé d'édition. Alors que quand même, ils ont lancé beaucoup de coffrets DVD au moment où le DVD est apparu, puisque Amicalement Vôtre a fait partie des premières séries disponibles en DVD.
Oui, qui est d'ailleurs en permanence disponible en
Oui,
DVD.
toujours
C'est
édité.
juste qu'en Blu-ray, tu
Il
peux
y a
pas
sans
l'avoir,
arrêt une
quoi.
nouvelle édition
Ouais.
d'Amicalement Vôtre.
Actuellement, c'est une sorte de un peu cube comme ça.
Bah c'est oui, c'est un coffret blanc.
Oui, c'est un coffret blanc en forme de cube. Et d'ailleurs, ils ont quasiment réédité toute leur série de leur catalogue comme ça. Le Prisonnier, d'ailleurs, est aussi réédité hein, comme
Pas
ça.
toutes.
Ah,
Parce qu'il n'y a
beaucoup.
pas
Non, il n'y a
UFO.
toujours pas UFO. Mais
Parce qu'en
qui
fait...
veut UFO, sérieusement?
Si, il
Allez,
y a plein de gens.
il
Et quand
faut.
tu vois le prix sur
Voilà,
Internet,
c'est
si...
ça.
700 euros pour ce coffret. Hein. Bah, pour revenir un peu sur la petite histoire, effectivement, Amicalement Vôtre fait partie des séries qui sont sans arrêt rééditées par TF1. Ça, avec les Thunderbirds aussi, qui est sans
Oui.
arrêt disponible. Cosmos,
Ouais.
Le Prisonnier, c'est vraiment les quatre séries qui sont sans cesse éditées. Mais quand ils ont lancé le DVD TF1 Vidéo, ils l'ont lancé donc avec Le Prisonnier, UFO, Alerte dans l'espace, Thunderbirds, bien sûr, Département S et Les Champions. Et il faut savoir que parmi ces coffrets-là, UFO, Département S et Les Champions n'ont jamais été réédités en DVD. Et ces coffrets-là, maintenant, valent cher sur Internet parce que ils sont introuvables, bien
Oui.
sûr. Ce sont des vieux coffrets.
Et c'était plutôt des jolis coffrets avec, avec
des
beaucoup
coffrets,
de, avec des bonus, avec des petits livrets et tout. Hein. C'était pas l'édition cheap qu'on a actuellement. Notamment, bah, par exemple, si on voit les éditions récentes de Amicalement Vôtre, bah oui, c'est un coffret blanc et puis bah, c'est tout, il n'y a rien
de
plus dedans.
Oui, c'est des petits boîtiers plastiques. Mais
il
y a des bonus. Hein.
Il y a des bonus, oui, oui. Il laisse les bonus tels quels, mais il n'y a pas de petits livrets, il n'y a pas de petits...
D'ailleurs, le coffret Blu-ray, parce qu'en fait, il y a aussi un coffret DVD qui a été réédité en même moment et qui gardait les mêmes bonus. Et il y a de nouveaux bonus par rapport à cette édition. Il y a aussi en bonus l'épisode du Saint, donc le roi. Mais je crois, en tout cas, c'était le cas sur l'édition DVD, en VOSTFR.
Alors qu'il existe une VF.
Alors que TF1 a les droits sur le Saint. Pourquoi ? Pourquoi tu mets pas la version française pour le Saint alors que t'as les droits ? C'est un mystère. Honnêtement, j'ai jamais trop compris pourquoi. Résultat, pour l'instant, c'est un épisode que j'ai jamais vu en français à cause de ça.
Mm-hmm. Bah, déjà, on n'a pas tous les DVD du Saint, nous. Hein.
Non, parce que même ces coffrets-là sont rares. Alors que, bon, ils ont été réédités. Hein, c'est juste que j'avais pas acheté 36 versions du Saint.
Ouais.
J'aime bien acheter une collection complète. Quoi.
Ouais.
Enfin, voilà. Donc, si vous voulez voir cette série, elle est diffusée aussi assez régulièrement sur Paris Première. Seulement si vous avez la chaîne. En streaming, je crois qu'elle n'est pas disponible actuellement, même sur Amazon Prime.
Non, je ne pense pas.
Peut-être à l'achat, mais uniquement pas en location, quoi. Pas en tout cas, pas disponible sur Prime Video. Voilà, il faut que vous vous tourniez obligatoirement vers le DVD.
Vers le physique.
Voilà. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans les années 70, pour promouvoir une série, parfois, surtout chez les Italiens, on faisait des films. Des films à partir de 2 ou 3 épisodes. Et Amicalement Vôtre a eu le droit à 4 films, en fait, qui sont des faux films, hein, littéralement. C'est vraiment 2 épisodes mis bout à bout. Rien de plus filmé pour faire le lien. Donc, c'est vraiment une transition à l'arrache.
Ouais.
Y a eu 4 épisodes, a priori, qui ont un doublage français. Mm-hmm. A priori, qui ont un doublage français, mais en tout cas,
En tout cas, les affiches françaises existent, donc
oui,
c'est qu'il doit y avoir un doublage. Parce qu'à l'époque, tu n'allais pas sortir un film en version italienne sous-titré français. Tu ne faisais pas ça.
Non, tu ne faisais pas ça. Ça a eu beaucoup de succès en Italie. Parce que c'est typiquement italien, en fait.
Non, mais cette série a eu énormément de succès en Italie. Il n'y a qu'à voir, enfin, je veux dire, les bandes dessinées, les romans photos qu'ils ont sortis d'Amicalement Vôtre. D'ailleurs, des bandes dessinées illégales, hein.
Oui,
c'est
qui sont
dans le
PIF.
Si, ouais, PIF Gadget.
Dans PIF Gadget.
Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait aussi des romans.
Il y a eu
dans
deux
la Bibliothèque Rouge, en fait.
Et Point Rouge.
Ouais, Point Rouge plutôt.
Dans la collection Hachette et aussi dans la. En fait, il y en a eu 2 qui sont sortis dans 2 collections différentes.
En fait, Point Rouge et Bibliothèque Rouge étaient des. C'est juste le truc qui a changé de nom à un moment donné, je pense.
Je
la
suis
collection,
pas sûr.
Non, faudrait vérifier.
Enfin, en tout cas, il y a le premier épisode, en fait, qui est sorti en roman. Dans la Bibliothèque Rouge.
Pour ceux qui ne se souviennent pas, la Bibliothèque Rouge, c'était le pendant adolescent de la Bibliothèque Rose. En fait, actuellement, on considère que la Bibliothèque Rose, c'est pour les filles, la Bibliothèque Verte, c'est pour les garçons. Mais ça, c'était de la vaste connerie. À l'époque, la Bibliothèque Rose était pour les plus jeunes enfants, notamment le Club des 5, Saturnin.
Oui, c'est vrai.
Certains se souviennent, j'adorais Saturnin. Ensuite, la Bibliothèque Verte était pour les jeunes ados. Il y avait d'ailleurs des Clubs des 5 en verte, hein. C'était vraiment le résige de langue qui changeait parce que c'était des textes plus complexes. Et puis la Bibliothèque Rouge qui était plus ce qu'on appelle actuellement du young adult, quoi.
Oui.
Et notamment des adaptations de séries et de films comme justement Amicalement Vôtre.
Oui, c'est ça. Il y avait aussi une Bibliothèque Jaune, il me semble.
Tu penses peut-être à les collections jaunes du masque.
Ah oui, c'est peut-être ça, à cause de ça. Oui, c'est pas comme ça. Enfin oui, donc il y a eu 2 épisodes qui ont été édités
en roman.
C'était
le moment bibliothécaire.
le premier épisode et l'épisode « Quelqu'un dans mon genre », je crois. C'est l'épisode où Brett se fait enlever et il pense qu'il y a un double qui sévit à sa place pour tuer quelqu'un. Donc, les 4 juste pour donner les titres, il y avait « London Conspiracy » qui était donc les 2 épisodes, c'est-à-dire... l'épisode où Danny Wilde achète sa maison et l'autre épisode où c'est Roger Moore qui va dans sa maison d'enfance à la campagne.
Ah oui.
Sporting Change, aussi, qui se passe sur la Côte d'Azur. Mission Monte Carlo et The Switch, Justement, il y a l'épisode. Pour donner l'enchaînement des épisodes parfois bizarres, parce que The Switch, c'est littéralement l'épisode L'héritage Osroff avec l'épisode avec Angie.
Mais c'est pas logique parce qu'il y en a un qui se passe sur la Côte d'Azur et l'autre qui se passe en Angleterre.
Oui,
Ouais.
t'imagines le bordel?
C'est le bordel.
Et il n'y avait rien qui était filmé en plus pour faire la transition entre les
En plus,
deux
l'un des
épisodes.
deux, c'est l'été et l'autre, c'est l'hiver. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est important pour le scénario, en plus, que ce soit l'hiver d'un côté et l'été de l'autre. Enfin, c'est...
Oui, c'est vraiment, c'était vraiment très bizarre. Ils ont été édités en DVD aux États-Unis, je le sais, en partie, certains, deux sur trois, je
Ah, mais
crois,
c'est marrant
sur
qu'il n'y ait
quatre.
pas eu des... Parce que, par exemple, pour Cosmos, les DVD français ont les films. En tout
Il y
cas,
en a eu
y
il
a
y en a eu
eu
deux sur
des...
quatre aussi.
Oui, il y a eu deux sur quatre, effectivement, qui ont été édités.
Il y a, parce que les
Mais...
quatre ont été faits en français, de toute façon.
Ah, ouais.
Mais il y en a que deux qui sont sortis, deux fois. Enfin, voilà. Je sais pas si on peut rajouter vraiment grand-chose sur Amiga, mon faute. Contrairement à The Crunch, dans le précédent épisode où on parlait surtout du côté un peu révolutionnaire, Amicalement Vôtre, maintenant je dirais même que
C'est un classique.
c'est un
Ça
classique
même a un peu vieilli pour certains
pour
trucs.
certains aspects.
Oui, notamment bah, ces deux Playboys à la Côte d'Azur qui accumulent. Je veux dire, c'est les mêmes reproches qu'on peut faire à James Bond. Quoique, James Bond est un peu plus trash quand même à ce niveau-là.
C'est surtout misogyniste.
Ouais, la misogynie. Voilà, c'est comme ça. C'était vraiment. C'est misogynie typique de la période. Voilà, donc il faut. Faut garder ça en tête lorsqu'on le regarde, que c'est effectivement une série des années 70 qui s'est datée des années 70. C'est...
Oui, c'est ça. Et
Voilà.
encore, je trouve que parmi ce genre de série, en fait, ça aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'au final,
Oui. Allez.
les femmes qui apparaissent dans cette série, ce sont pas que des objets.
Non. Non, parce qu'en général, il y a souvent une intrigue. Elles peuvent être aussi méchantes que bonnes, aussi. Comment? Aussi comment jolies que bah non en fait elles sont toutes jolies quand
Oui,
même
elles sont toutes jolies.
mais ce n'est pas c'est pas effectivement ça reste pas uniquement des objets mais il y en a certaines si quand même
Oui, mais c'est les années 70, hein.
voilà
Donc c'est typique de son époque.
hier j'ai failli crier à la au trope de la personne handicapée méchante mais en fait non parce que j'avais oublié le twist de l'épisode
Oui, c'est ça. Bah, il est pas,
Il est pas hyper gentil non plus.
c'est un magma des affaires, quoi, qui a pas
Oui.
trop
Non,
de.
c'est juste que c'est un cliché systématique d'énormément de séries, encore actuelles d'ailleurs, c'est que le méchant a un défaut physique
Oui.
qui fait qu'on le spot tout de suite comme méchant. C'est comme le queer coding des méchants, notamment chez Disney. Hein. C'est pas, c'est un peu intériorisé, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément, qu'un scénariste fera peut-être pas forcément consciemment. Mais une fois qu'on s'en rend compte, on peut plus passer à côté. Et à chaque fois, on se dit, ah, mais sérieusement.
Oui, c'est vrai que par exemple, c'est comme le fait qu'un méchant ait de grandes oreilles ou une
Oui, ou une
cicatrice.
cicatrice, voilà, cicatrice, exactement.
C'est typique. Enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder si vous ne connaissez pas, si vous avez échappé aux nombreuses rediffusions sur M6. Ça peut se faire. C'est vrai que si vous, enfin, si la misogynie n'est pas trop votre truc, il n'y en a pas tellement.
Vous pouvez quand même y aller
Ouais,
franchement
ça
et
va.
essayer. Si ça vous gêne à un moment donné, bon,
Bah,
on
ça arrive.
vous en voudra pas. Il y a
C'est une,
pas.
faut se dire que c'est une série des années 70, effectivement, où bah, on mettait de jolies filles parce que ça vendait bien.
Voilà. Ça se ferait maintenant, ça passerait plus du tout. Bon, on peut le pardonner à quelque chose d'ancien. Je pense que si on s'en rend. L'intéressant, c'est de pouvoir le regarder en s'en rendant compte et
Ouais.
en ne disant pas ouais, c'est normal. Voilà. Non, c'est pas normal, mais bon, c'était l'époque.
Oui, c'est comme
Voilà.
ça arrivait, donc on peut pas non plus. Voilà.
C'est comment? C'est comme on peut mettre une petite affiche en disant cet épisode a des trucs racistes, comme certains films le font actuellement. On le sait. On va pas remonter le film pour ça, mais
On
on le
peut pas
sait
faire.
et on évitera à l'avenir de le faire. Voilà,
Voilà.
c'est ça.
Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cet épisode.
Zut, alors on est devenus des social justifiés
Non, dis pas ça, ça n'existe
ailleurs.
pas, ça.
C'était ironique.
Oh, bah, j'espère. Rendez-vous le prochain épisode pour une autre série ou un film. Je crois que ça va être un film.
Oui, ça va être un film parce qu'on s'est plus ou moins décidé sur une sorte de.
De liste de choses qu'on va cocher.
Oui, et puis de rythme.
Ouais.
Dans le sens, on va faire sans doute un truc pas connu,
Un
un
truc.
truc plus connu,
Ouais.
un film.
Voilà.
Donc, plus une série, film. Et de temps en temps, il y aura peut-être un bouquin.
Oui.
Mais oui. Là, c'est, le souci, c'est que...
Il y en a un dont on aimerait bien parler, mais ce jour, on l'aura.
Pourquoi ? C'est quoi ?
Tomato
Cake. Ah oui, Tomato Cake, oui.
Oui, ça, on racontera dans un prochain épisode, mais si vous aimez Nigel Neal, on en a parlé dans le précédent épisode, mais il faut savoir que ce scénariste-là a donc écrit un bouquin avant de produire la télé, qui est un bouquin qui s'appelle Tomato Cane and Other Stories, qui est en fait une espèce de recueil des nouvelles qu'il écrivait dans la presse.
Oui. Ce qui est vraiment amusant, c'est que ce bouquin a reçu le prix Somerset Maugham, qui est quand même pas rien comme prix... littéraire en Angleterre, et il n'a jamais été réédité ailleurs qu'au Japon.
Oui, c'est
au
ça.
Japon, il y a 3 éditions,
dont
une récente.
En édition anglaise, il y en a 3 aussi, mais je crois qu'il n'a pas été réédité depuis 64.
En fait, il y a eu 3 éditions, donc une anglaise, 2 américaines et une de l'île de Man qui a été éditée du côté de 2013, je pense, qui ne reprend que 9 des 29... des 29 nouvelles, donc toutes les nouvelles qui se passent sur l'île de Man, ou l'île de Man.
Et donc,
enfin, je sais plus.
Si on veut un exemplaire de ce bouquin, bah faut débourser 600 euros.
Voilà.
Et il n'y a pas d'autre solution. Et bon, non, on n'est pas prêt de le lire.
Non, voilà. Bon, à la limite, on peut peut-être aller jusqu'à La Haye, la bibliothèque de La Haye aux
Pays-Bas. Ah, en Angleterre, il est disponible dans certaines bibliothèques. Hein.
Ouais, bah à La Haye, aux Pays-Bas, il y a moyen. Donc honnêtement, ça serait peut-être plus proche actuellement.
Mais... Ouais, mais bon, lire 29 histoires dans la journée, toi, tu peux le faire, mais moi non.
À la limite, je peux peut-être parler gentiment aux bibliothécaires, leur dire que je suis une collègue, que je veux juste photocopier le livre.
Ils ne voudront jamais.
Non.
Enfin bref, on va se donner rendez-vous au prochain épisode. Ce sera un film, ce sera probablement The Boat That Rocked.
Oui,
c'est ça, hein.
Ou Good Morning England en français,
ce
qui est ridicule. Ou Le Bateau Pirate, ou Radio Pirate, je pense, au québécois.
Canada. qui est un excellent film, et on parlera d'ailleurs de Radio Caroline.
Oui.
Même la version bretonne de Radio Caroline en ce moment.
Quoi ?
Ouais, il y a...
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une radio
Caroline
bretonne,
c'est vrai.
Il y a une
radio qui n'a rien à voir.
J'ai peut-être essayé d'en profiter pour en parler avec mon père, parce que mon père écoutait Radio Caroline quand il était plus jeune.
Eh ben.
Il n'est pas tout jeune. Hein.
Donc rendez-vous au prochain épisode, et puis d'ici là, regardez plein d'œuvres britanniques.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.